Sur de nombreux milles, ils peinèrent dans la caillasse de la rivière à sec jusqu'à ne plus pouvoir poursuivre, et le soir déversa l'obscurité dans le creux de la ravine. Alors ils escaladèrent la rive est, et ils avaient atteint à présent les collines qui se bousculaient au pied des montagnes. Élevant les yeux, Tuor vit qu'elles se dressaient fort différentes des montagnes qu'il était accoutumé de voir, car leurs versants étaient d'abruptes murailles, chacune s'exhaussant au-dessus et en retrait de la muraille sous-jacente, et qui formait un amoncellement de hautes tours et de précipices étagés. Mais le jour tombait, et toute la contrée était grise et brumeuse, et le val du Sirion s'ensevelissait dans l'ombre. Lors, Voronoe le conduisit à une grotte peu profonde qui s'ouvrait à flanc de coteau sur les versants solitaires du Dimbar, et ils s'y mussèrent et demeurèrent là, cachés. Et ils mangèrent leurs dernières miettes de nourriture, et ils sentaient le froid et la fatigue, mais point ne dormirent. Et c'est ainsi que Tuor et Voronoe parvinrent en vue des tours des Écoriaths et sur le seuil de Turgon, au crépuscule du 18e jour d'Izimé, le 37e de leur voyage, et qu'ils échappèrent à la malédiction comme au mal, grâce au pouvoir d'Ulmo. Lorsque la première lueur du jour filtra, grise parmi les brouillards du Dimbar, ils s'engagèrent de nouveau dans le lit de la rivière à sec. Peu après, son cours s'infléchit vers l'est, serpentant jusqu'aux parois même des montagnes, et droit devant eux, soudainement s'ouvrit, béant et ténébreux, un terrible précipice au bout d'une pente rapide, tout envahi d'une broussaille épineuse. Le ravin pierreux s'enfonçait dans ce fourré, et il y faisait encore sombre comme la nuit. Ils s'arrêtèrent, car les épines poussaient drues jusqu'au pied des parois, et les branches entrelacées formaient un toit touffu, si bas que souvent Tuor et Voronoe devaient ramper comme des bêtes qui regagnent furtivement leur antre souterrain. Mais enfin, comme à grand-peine ils atteignaient le pied même de la falaise, ils découvrirent une faille, sans doute l'orifice d'un tunnel creusé dans la pierre dure par les eaux qui s'écoulaient du flanc de la montagne. Ils entrèrent, et passé le seuil, tout était noir. Mais Voronoe cheminait sans hésiter, et Tuor suivait, la main sur son épaule, se courbant un peu car la voûte était basse. Ainsi avancèrent-ils un temps à l'aveuglette, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'ils sentissent la terre s'aplanir sous leurs pieds et la caillasse disparaître. Ils firent halte alors et respirèrent profondément, se tenant là, l'oreille aux aguets. L'air semblait frais et salubre, et ils eurent le sentiment de se trouver au milieu d'un grand espace. Mais le silence régnait, et on ne percevait même pas le sourcillement de l'eau. Tuor crut voir du trouble et de la perplexité chez Voronoe, et il murmura « Où donc est la porte gardée? Ou bien avons-nous déjà passé outre ?»« Non pas, » dit Voronoe, « et pourtant je m'étonne, car il est étrange que des intrus puissent pénétrer ainsi sans rencontrer d'opposition. Je redoute quelque mauvais coup dans l'ombre. » Mais leurs chuchotements éveillèrent les échos endormis qui allèrent croissant et se multipliant et résonnèrent sous la voûte et contre les parois invisibles, sifflant et susurrant, telles mille voix furtives. Et comme ils se mouraient dans la pierre, Tuor entendit une voix qui du cœur des ténèbres s'exprimait dans la langue des elfes. Elle usa d'abord du haut-parler des Noldor, qu'il ne connaissait pas, puis de la langue du Beleriand, mais avec des inflexions un peu étranges à ses oreilles, celles de gens qui auraient vécu depuis longtemps à l'écart de leurs parents.
« Ne bougez pas, » disait la voix. « Ne faites pas un seul mouvement, ou vous périrez, que vous fussiez ennemi ou ami. »«
Nous sommes des amis, » dit Voronoe.
« Alors faites ce que l'on vous ordonne, » dit la voix.
L'écho de leur voix s'éteignit dans le silence. Voronoe et Tuor s'immobilisèrent, et à Tuor il sembla que de longues minutes s'écoulaient, et une peur étreignit son cœur, tel que nul autre péril sur sa route n'avait éveillé en lui. Puis vint un bruit de pas, devenant lourd de foulée, semblable à celle d'un troll martelant le pavé dans le vide de ses lieux. Soudain, quelqu'un démasqua une lanterne elfique et braqua son rayon brillant sur Voronoe qui le précédait. Et Tuor ne vit plus rien, hormis une étoile éblouissante dans l'ombre. Et il savait que tant que ce rayon était sur lui, il ne pouvait ni bouger ni fuir, ni se précipiter en avant. Un temps, ils demeurèrent pris ainsi dans l'œil de la lumière, puis la voix parla de nouveau, disant « Montrez vos visages !» Et Volonoué rejeta son capuchon, et son visage brilla dans le rayon dur et clair, comme gravé dans la pierre. Et Tuor fut ébloui de sa beauté. Et Volonoué parla fièrement, disant « Ne reconnais-tu pas celui que tes yeux contemplent ? Je suis Volonoué, fils d'Aranoué, de la maison de Fingolfin. Mon souvenir se serait-il effacé après quelques années loin de mon pays ? Bien au-delà des confins de la terre du milieu, ai-je erré, et pourtant je me souviens de ta voix, Elemakil. »
Alors Voronoué se souviendra aussi des lois de son pays, dit la voix. Puisque sur ordre il s'en fut, il a le droit de revenir, mais non point d'amener ici un étranger. Par cet acte, son droit est prescrit, et il lui faut se soumettre captif au jugement du roi. Quant à l'étranger, il sera ou tué, ou tenu prisonnier, au gré de la garde. Conduis-le ici que je puisse en juger.
Et Volonoué conduisit Tuor vers la lumière, et comme il s'approchait, des Noldor en nombre, revêtus de cottes de mailles et en armes, s'avancèrent hors des ténèbres et les entourèrent les pieds nus. Et Elemakil, capitaine de la garde, qui tenait la lampe au pur éclat, les considéra longtemps et de près.
« Voilà qui est étrange de ta part, Volonoué, » dit-il. « Nous étions amis depuis longtemps. Pourquoi me contrains-tu ainsi de choisir cruellement entre mon amitié et la loi ? Tu aurais conduit ici un intrus appartenant à une autre maison des Noldor que cela pouvait s'admettre. Mais tu as dévoilé la connaissance du chemin à un homme mortel, car par ses yeux je devine son origine. Et cependant, jamais plus il ne pourra s'en aller libre, connaissant le secret. Et comme un qui est issu d'un peuple étranger et qui a osé pénétrer ici, je devrais le tuer, fût-il ton ami et quelqu'un qui t'est cher.
Dans les vastes pays hors les murs et les maquilles, bien des choses étranges peuvent advenir, et des tâches imprévues peuvent nous être assignées, répondit Volonoué. Et celui qui erre au loin revient autre qu'il était en partant. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour obéir à des ordres plus puissants que la loi de la garde. Seul le roi doit me juger, et celui-là qui vient à mes côtés. »
Alors parla Tuor, et il n'éprouvait plus de crainte.
« Je suis venu avec Volonoué, fils d'Aranoué, parce qu'il me fut donné pour guide par le Seigneur des Eaux. À cette fin, il fut sauvé de la fureur des flots et de la malédiction des Valar. Car je suis porteur d'un message d'Ulmo au fils de Fingolfin, et à lui seul, je délivrerai le message. »
Là-dessus, Elemakil dévisagea Tuor avec étonnement.
« Qui es-tu donc ? » dit-il. « Et d'où viens-tu ? »
« Je suis Tuor, fils de Huor de la maison de Hador, et du même sang que Hurin, et ces noms, me suis-je laissé dire, ne sont pas inconnus au royaume caché. J'ai traversé depuis le Nevrast maint péril pour le trouver. »
« Depuis le Nevrast ? » dit Elemakil. « On dit que plus personne n'y vit depuis que notre peuple s'en fut. »
« On dit vrai, » répondit Tuor. « Vides et glacées sont les salles de Vinyamar, et pourtant tel est le lieu d'où je viens. Mène-moi maintenant à celui qui a construit ces anciennes demeures. »
« En matière aussi grave, je ne puis décider, » dit Elemakil. « Aussi je te mènerai à la lumière où plus de choses se peuvent révéler, et je te remettrai entre les mains du gardien de la grande porte. »
Lors, il donna ordre, et Tuor et Volonoué furent placés entre des gardes de haute stature, deux les précédents et trois venant à leur suite. Et le capitaine les conduisit hors de la caverne de la garde extérieure, et ils franchirent, à ce qui leur sembla, un passage en droite ligne, et là, ils foulèrent longtemps un sol plat, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus en vue d'une pâle lueur. Et ils se tenaient devant une puissante arche reposant de part et d'autre sur de massifs piliers taillés dans le roc, qui encadraient une imposante herse faite de lattes entrecroisées, merveilleusement travaillées et toutes cloutées de fer. Elemakil la toucha, et sans bruit elle se releva, et ils passèrent outre. et Thor vit qu'il se tenait au bas d'un ravin tel qu'il n'en avait jamais vu de pareil, ni conçu en son imagination, malgré ses longues errances par les montagnes sauvages du nord. Car comparé à l'Orfalk Elkor, Kirith Niniak n'était guère qu'une rainure dans le rocher. Ici, c'étaient les mains mêmes des Valar, lors d'anciennes guerres au commencement du monde, qui avaient déchiré de part en part les formidables montagnes. Et les parois de la faille étaient abruptes, comme taillées à la hache, et elles culminaient à des hauteurs prodigieuses. Là-haut, tout en haut, courait un ruban de ciel, et contre ce ciel d'un bleu profond se détachaient des crêtes déchiquetées et de sombres pics, distants mais durs et cruels, autant que fer de lance. Ces puissantes parois étaient trop hautes pour que le soleil d'hiver s'y glissât, et bien qu'il fît grand jour, de pâles étoiles chatoyaient sur les cimes, et en bas, tout était obscur, sauf pour la lueur des lampes posées le long de la route ascendante. Car le sol du ravin s'élevait rapidement vers l'est, et à main gauche, Thor vit près du lit du torrent une large voie, bien dessinée et pavée de pierres, serpentant vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse dans l'ombre.